Non, contrairement à mes petits camarades de toute la journée, j'avais pas trop l'intention de m'adresser aux punks. Peut-être un peu quand même, mais un peu aux universitaires en fait qui organisaient cette journée, parce que j'ai littéralement le cul entre deux chaises en étant punk et universitaire, et du coup je savais pas trop à qui parler en fait. Et ça va faire une intervention un peu bizarre, parce que ça va être comme si je parlais deux langages en même temps, et donc ça va être assez incompréhensible. Donc si vous voulez fumer une cigarette, c'est maintenant je pense, et ou si vous comprenez juste rien, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait illisible et c'est un peu pensé pour ça. Alors quand le programme de la journée de cette journée-là, aujourd'hui, est sortie, j'ai reçu un texto, comme ça, où on m'a dit, si maintenant tu donnes des conférences à l'Alcatraz, je peux continuer à faire des enfants sans culpabiliser, alors. Moi, je trouve ça dramatique. Mais, en tout cas, c'était parfait pour commencer aujourd'hui, parce que l'Alcazar, effectivement, on a toujours appelé ça Alcatraz. Parce que, à tort ou à raison, alors je vous ai mis une photo d'Alcatraz, voilà. On a toujours pensé que c'était le premier symptôme de la gentrification de Marseille. Parce que tout ce qui était institutionnel déclenchait notre méfiance, et le plus souvent, c'était justifié. Et quand je dis nous, d'habitude, je dis nous les punks. Mais là, vous comprenez bien qu'aujourd'hui, c'est un peu compliqué de dire nous les punks. Hein. Donc en fait, peut-être nous les anarcho-punks, ou nous du DIY, ou quelque chose comme ça. Alors depuis, j'ai plongé dans un monde qui est encore bien plus institutionnel, c'est celui de l'université. C'est une photo de l'université. À Aix, c'est pas comme ça. Alors aujourd'hui, je me retrouve avec le cul entre deux chaises. Donc comment est-ce que je pourrais bien parler du punk à une journée universitaire sur le punk? Est-ce que je dois parler comme parlent les universitaires, ou est-ce que je dois parler comme parlent les punks? Comment est-ce que parlent les punks? Bah pas avec moi, c'est pas grave, pas dans les universités en général, effectivement, mais là on est comme à l'université. Alors en fait, moi je pense que j'ai rien à raconter sur le punk. En fait, j'ai mille choses à raconter. Y a quoi, les Sex Pistols en 76, oui? Ah ben j'avais tellement pas d'âge que j'étais pas née, tu vois. Donc moi j'ai à la fois rien à raconter et mille choses à raconter, en fait, comme chacun de nous sur le punk. Mais rien qui a sa place ici, parce que je pense qu'un témoignage, c'est pas très intéressant. En tout cas, c'est. Je pense que mon témoignage, il serait intéressant que si c'était un témoignage collectif, que s'il prenait place dans une parole collective. Parce que ce qui m'intéresse, c'est comment on témoigne collectivement, comment on peut faire voix collectivement, comment on fabrique du passé, qu'est-ce que ça veut dire fabriquer du passé, à quoi ça sert de fabriquer ce passé. Mais vous devinez la suite de l'histoire, pour mes compagnons de jeu, une conférence à Alcatraz, c'était trop demandé. Et il y en a même qui préfèrent faire des enfants, du coup, c'était vous dire que c'était complètement impossible. Pourtant, ouais, mais j'ai l'habitude de faire court, il y a toujours des gens qui font ça, il n'y a pas de souci. Me voilà avec une vingtaine de minutes pour parler, et c'est précisément cette question-là que je vais vouloir creuser un peu. Comment est-ce qu'on peut parler du punk à une journée universitaire sur le punk? C'est pour ça que ça va être un peu bâtard. Je vais parler, en gros, de marge, d'ordre du discours, de savoir de pratique, d'autodestruction, de politique, et puis un peu de la fac, du coup. Je vais partir donc de questions et d'expériences qui me sont propres, mais je vais essayer de toucher à des questions un peu plus larges, des témoignages un peu plus généraux. Ça marchera peut-être pas, ça sera hyper brouillon dans tous les cas, en tout cas on verra. C'est une expérience aussi de discours, parce que vous voyez que je fais des slides comme à la fac, je vais lire un texte aussi un peu comme à la fac. En même temps, je ne fais pas un exercice académique, pour ceux qui connaissent l'université. Je ne collerai pas aux façons de parler du punk, ni aux modalités discursives universitaires. Bref, ça sera toujours entre les deux. Alors, faire l'histoire des marges, les universitaires aiment bien faire ça. Ils aiment bien parler de subalternes, de minorités, de marges, de périphéries. Et en fait, c'est qui fait l'histoire, qui l'a fait où et pour qui, et si les punks n'avaient pas besoin qu'on leur fasse de sociologie, et si les punks n'avaient pas besoin qu'on fasse l'histoire des punks, si les punks étaient capables de faire eux-mêmes leur histoire, je pense qu'on est capable en fait. Alors pourquoi c'est problématique? Parce que l'institution ne peut qu'avaler les marges, le centre ne peut qu'avaler la périphérie. C'est pour ça qu'on se tient en général loin des espaces de pouvoir et des espaces institutionnels. Et pourtant, si je suis là, c'est que je crois qu'on peut quand même peut-être tisser des savoirs hybrides, que les savoirs critiques qui circulent dans l'université peuvent dialoguer avec les savoirs pratiques qui sont développés dans les marges. Faire l'histoire du punk, donc, est-ce que c'est parler, encore une fois, aux universitaires ou parler aux punks? Parce que produire du savoir, après tout, on s'en fout. Mais en même temps, on fait ça tout le temps. Alors documenter quoi? Faire les archives. Pour qui? Et ne serait-ce qu'en parlant comme je fais là, est-ce que je suis dans l'ordre du discours universitaire ou pas? Comment est-ce que je peux mobiliser de manière critique des outils que je vais chercher dans le monde universitaire? Ou même la notion d'ordre du discours? J'ai mis ordre du discours. Si sitôt que je prononce ordre du discours, je tombe dans l'ordre du discours. Vous voyez, au niveau discours, ça ne marche pas, en fait. Dès que je vais mobiliser le savoir universitaire, je vais parler comme universitaire et on sort de la parole. En linguistique, moi je suis linguiste, on dit le mot chien ne mord pas. C'est pour différencier entre le mot et la chose. Mais là, ici, le mot chien mord. C'est-à-dire que quand je dis ordre du discours, ça ordonne le discours. Ça fait du discours un truc de pouvoir, un truc universitaire. Alors comment on peut élaborer des savoirs quand on est contaminé par le mode de production universitaire du savoir? Si je ne mobilise pas cet ordre du discours, est-ce que je vais être réduite au témoignage? Moi, je n'ai pas envie de me réduire au témoignage, comme beaucoup d'entre nous ici, je pense. Comment embrayer les discours académiques du savoir aux discours issus de nos pratiques, sans que l'un ne dévore l'autre, sans que l'un n'assujettisse l'autre, et en disant ça ici, encore une fois, à qui est-ce que je parle? Alors, j'ai plein de questions. Pourquoi pas tout laisser dans les marges? Pourquoi faire la recension? Pourquoi on perd la mémoire? Est-ce qu'on peut remémorer sans cadastrer? Est-ce qu'on peut témoigner sans archiver, sans mettre des cartons? Ce matin, ça m'a rendu triste quand on a vu les images de cartons qui étaient rangés sur des étagères où tous les flyers étaient là-dedans. Est-ce qu'on peut vraiment faire l'histoire des nains? Ça fait délirer les universitaires, mais encore une fois, comment en parler en maîtrisant les codes de la communication? Alors, à titre tout à fait personnel, je pense que le féminisme peut nous aider. Je pense que là, pour la peine, on n'est pas très nombreux à penser ça. Mais en vérité, les savoirs situés, je pense que ce n'est pas la question ici. Faire l'histoire du punk, c'est essayer de rendre lisible le punk. Je pense que tout le monde a vu l'hétérogénéité qu'il y a eu dans le punk depuis ce matin, là pour Marseille, mais si on prend des échelles plus grandes, c'est encore plus vrai. Et du coup, essayer d'organiser ça, c'est essayer de le rendre lisible. Et lisible pour qui? Faire une histoire, encore une fois, à destination de qui? Pourquoi j'ai l'intuition chevillée qu'il ne faut pas faire la sociologie du punk? J'ai pas vraiment de réponse à ça. Mais en tout cas, en essayant de préparer ce moment pour venir vous parler, c'est la seule intuition que j'ai. En gros, est-ce que parler du punk, ça le dissout automatiquement? Non, j'ai pas la prétention d'avoir des réponses. Ah, mais je te le disais pas à toi, j'ai entendu. Oui, oui, mais il n'y a pas de souci. On peut parler, hein, vous pouvez m'interrompre, il n'y a pas de problème. Quand j'ai entamé un parcours universitaire, j'ai pensé au départ que le travail théorique que je ne trouvais pas ailleurs, que je ne trouvais pas dans le punk, me permettrait d'affiner des réflexions et des pratiques qu'on avait justement dans le mouvement punk. Et c'est ce qui s'est passé. Je me suis outillée pendant que je me sentais absolument illégitime à circuler dans l'espace universitaire. Je me mettais à manier des concepts qui donnaient de l'épaisseur à toutes nos pratiques, qui leur donnaient du sens, qui les reliaient. Et puis j'ai pris plaisir à manipuler ces concepts et j'ai été capable de les articuler au-delà de mes propres pratiques et de nos propres pratiques. Puis en même temps, elles m'ont permis de manger, ces articulations conceptuelles, ça m'a donné un salaire. Et puis petit à petit, j'ai plus eu le temps pour les pratiques et la vie m'a amené ailleurs. Aujourd'hui, je crois que le travail théorique empêche d'être punk. J'en suis pas sûre à 100%, mais j'arrive pas à dépasser la dichotomie. Aujourd'hui, je pense que toute tentative sociologique réduit le punk au néant. Et pourtant, je suis là, à parler des punks à Alcatraz. Dans le monde universitaire, il y a aussi une autre différence, c'est qu'il n'y a pas de place pour l'autodestruction. Vu la moyenne d'âge, ceux et celles qui restent, en général, c'est ceux ou celles qui ont eu de la chance. Ou ceux ou celles qui ont peut-être moins cédé à l'autodestruction, ou juste à la destruction. Mais le punk, on le sait tous, c'est aussi la mort, c'est aussi l'autodestruction. Et je ne sais pas trop de ce qu'on peut faire de ça vraiment dans un auditorium de bibliothèque. Vraiment faire de ça. Du fait qu'on compte de plus en plus nos morts, et pas seulement parce que les gens vieillissent. On compte nos morts parce que la plupart d'entre nous ont brûlé la chandelle par les deux bouts. Dans l'université, au contraire, les corps sont extrêmement protégés. Ce n'est pas des corps qui s'abîment, ce n'est pas des corps qui travaillent. C'est des corps qui doivent ménager l'intellect et qui s'autodétruisent pas, ou pas trop violemment. À l'université, on mange bien, on a de bonnes conditions de vie, et même si on est précaire, le capital culturel qu'on a nous permet de faire face à toutes les machines bureaucratiques. Quand on est punk et universitaire, on peut jouer sur tous les tableaux et on gagne à tous les coups. On a tous les outils de la démerde, on a la répartie de la rue, on sait se bagarrer, on a la mauvaise foi qui est nécessaire, et aucune illusion pour faire obstacle, et en même temps, on a tout le capital culturel, on a la maîtrise du discours, on a le poids du prestige et on a l'autorité du savoir. On est gagnant à tous les coups, à l'exact opposé du punk, qui célèbre la perte. Et les copains continuent à se brûler les ailes. Et depuis les palaces de l'institution universitaire, on sera là pour faire le récit de leur chute, pour recréer les protocoles et les rituels de la mémoire. Et nous, on sera épargnés, parce que nous avons rejoint le pouvoir. Et en même temps, en suivant des chemins longtemps ouverts avant nous, des chemins à la Martin Eden par exemple, en même temps on ne trompe personne. En tout cas dans l'institution, moi je ne trompe personne. Alors que ce soit à travers l'institution universitaire ou pas, il faudra bien qu'on se trouve des chemins de traverse pour n'être ni vivant ni pauvre, ou ni riche ni mort, pour continuer à vivre l'émancipation du punk sans en mourir et pour ne pas nous faire avaler par les puissants, par l'assujettissement, à qui j'espère on ne ressemblera jamais, et de ne pas écraser les copains qui n'ont pas traversé le gué. Il faut bien trouver des chemins de traverse et de nouvelles façons de parler, des langues hybrides et des discours illisibles pour n'être tout à fait nulle part et peut-être faire la mémoire pour déjouer la mort. J'ai dit que j'avais ni plus ni moins à dire que d'autres, que beaucoup d'autres. Et il me semble que s'il y a quelque chose à dire, c'est collectivement. Réfléchir à comment on peut faire une mémoire ou du moins une parole polyphonique, sans auteur, sans autorité, sans porte-parole, sans star, sans idole. Juste faire mémoire comme on fait mouvement dans la juxtaposition de ce qu'on est, dans nos actions, dans l'hétérogénéité. Mais pour diverses raisons, c'est pas ici que ça se fera. Par contre, il y a une chose qui me semble importante à faire exister ici, c'est la dimension politique du punk. Ça n'a pas été beaucoup abordé, à part tout à l'heure, sur la table ronde, autour des visuels et des images. Ici, il y a plein d'aspects du punk, plein de gens du punk, qui en montrent plein de facettes. Mais ce qui manque et qui a pourtant existé, c'est un punk politique, et plus précisément l'anarcho-punk. À partir des années 2000, a existé une scène squat, une scène anarcho-punk, une scène DIY, qui avait pour particularité ces groupes, dans une moindre mesure, peut-être en style musical, le fait que ça se passait dans les squats, que la bouffe était végétarienne et qu'il y avait toujours des tables de presse et des infos kiosques, et que l'entrée, voire le bar, était pris libre. Toujours quelqu'un de prêt à monter au créneau s'il y avait des trucs racistes ou sexistes, et aussi pas mal de défense et beaucoup de concerts sauvages. Et même l'abordage pirate du bateau-restaurant 3 mâts sur le Vauport, mais qui a coulé entre-temps. Le rapport au fric, c'était pas rien, en fait. Je sais pas si on s'en rendait bien compte, mais on faisait tout sans fric ou presque, et tout était gratuit ou presque. J'avais oublié ça, mais quelqu'un m'a rappelé ces dernières semaines qu'on passait les après-midi avant les concerts à aller gratter ou siphonner de l'essence à la Valentine pour payer les groupes, pour les défrayer. Je crois que c'est pas rien ce côté-là. Et aujourd'hui, après quelques ajustements, ça prend d'autres formes, et c'est bien. Il y a un certain nombre de choses qui sont passées comme ça. À la sale gueule, par exemple, c'est toujours 5 euros, si tu peux. Alors il nous énerve un peu si tu peux, parce qu'il est là tout le temps, donc il ne peut plus rien dire. Mais en même temps, c'est quand même là. Et a priori, on espère que quand une meuf se fait emmerder, il y a un peu du renfort collectif si besoin. C'est pas partout, c'est pas tout le temps. Mais dans un certain espace, qui n'est pas une scène politique en soi, il est resté des traces de ces pratiques, et je crois que c'est une bonne chose. Dans un contexte assez dépolitisé du punk, et de forte dépolitisation plus globalement ici maintenant, on va sûrement revenir à des choses politiques à un moment, parce que la situation se tend. Et cette généalogie-là, ces pratiques seront importantes. Parce que quelque part, depuis le punk, moi, j'ai jamais été capable de définir politique. Aujourd'hui, à l'université, je suis capable des définitions de ce qui est politique. Je peux faire même des définitions en quatre dimensions. Je vous en ai mis là. On va pas les regarder. Quand je raconte ça à la fac, je me fais jeter. Hein. C'est trop politique. Et en dehors de la fac, j'étais bien incapable de l'articuler. C'est quand même la fac qui m'a donné ces outils-là. C'est la fac qui me permet de le dire. C'est pas le punk qui m'a permis de le dire. Mais en même temps, c'est dans le punk que je peux le dire. En même temps, on s'en fout. On va pas le regarder. Aujourd'hui, je me sens capable de faire ça. Bon. Je me sens pas militante, je me suis jamais sentie militante. Là où on était, c'était du punk politique. Aujourd'hui, j'appartiens au régime des sciences sociales, mais peut-être que c'est juste pareil. C'est des endroits où on se questionne, qui par la pratique, qui par la théorie, sur ce qu'on peut faire de nos vies pour se la donner. Et on peut faire ça à coup de concert sauvage ou à coup de concept de la pensée critique, peu importe. Non, pas peu importe. Et en même temps, si j'avais tant de mal à préparer cette communication, c'est aussi à cause de la tension entre normalisation et subversion. La force politique du punk, c'est la force de l'irruption, c'est faire de la contrefaçon comme résistance à la solidification et au pouvoir. Diffuser le punk, dans une journée comme aujourd'hui, c'est au mieux le normaliser, au pire le mettre au musée. C'est le paradoxe d'une subversion qui deviendrait majoritaire, qui deviendrait officielle. Il y a une femme qui s'appelle Judith Butler qui a écrit dans Trouble dans le genre « Les performances subversives perdent leur force quand elles se figent en concept. » Ok, là c'est peut-être un peu ce que je suis en train de faire. Elle court toujours le risque de devenir des clichés usés à force d'être répétés, et chose plus importante encore, et c'est là que ça nous intéresse, quand elles sont répétées dans le cadre d'une économie de marché où la subversion a une valeur marchande. Le punk, malheureusement, on le sait, il n'y a pas trop échappé. Alors, à trop documenter le punk, ne risque-t-on pas de le normaliser et que ce geste subversif n'ait plus de force? Est-ce que ça peut encore alimenter une réflexion qui soit en mouvement? Ou est-ce que c'est condamné à devenir un fossile? L'hypothèse pessimiste, ça serait que on est plutôt dans un moment de dépolitisation qui rend audible, acceptable des contre-cultures dans des espaces où elles ne l'étaient pas, à l'Alcazar par exemple. En d'autres termes, c'est un indice parmi d'autres d'une libéralisation. La question devient alors qu'est-ce qui est vidable de son sens politique? Qu'est-ce qui est libéralisable? Pour des raisons qui restent à discuter, on voit bien que le queer, par exemple, est plus vidable que le féminisme matérialiste, pour ceux à qui ça parle, celle, pardon. Que le véganisme, c'est plus vidable que la grève des loyers. Mais c'est pas parce que quelque chose est récupérable qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain, bien au contraire. Et le punk, ça demeure en plein endroit très politique. Mais il faut chercher à comprendre ce qui est libéralisable pour pouvoir réinjecter du politique, de la puissance. Et enfin, dans le rapport au savoir, il y a une dernière chose que j'ai réalisée récemment, et je crois qu'il est propre à Marseille, c'est qu'à Marseille, personne n'est allé à l'école. De tous mes copains, et même au-delà de mes copains, en fait, ceux qui ont le bac, ça se compte sur les doigts d'une main. Et alors à la fac, n'en parlons pas. Et j'ai longtemps cru que c'était normal, que c'était partout comme ça. Et qu'en allant à la fac, je faisais une bizarrerie, comme il y en a d'autres qui se mettent au mélodica ou qui ont des lubies. Mais ce que j'avais pas compris, c'est que j'étais en train de prendre un chemin qui m'amènerait ailleurs, vers une drôle d'ascension sociale, un peu abâtardie. Ça me donnera pas des lettres de noblesse forcément dans la fac, et c'est tant mieux, mais en tout cas, ça me fait parler d'une façon différente que mes copains ne comprennent pas toujours. Avec des questions, par exemple, où je peux dire « Est-ce qu'on ne devrait pas outrepasser la querelle entre queer et matérialisme à la lumière de la French théorie de la pensée critique ou de la pensée de la critique selon Boltanski ?» Ou des trucs comme ça. Et plus tard, il n'y a pas si longtemps, en fait, au moment où Marseille a commencé à se gentrifier, j'ai compris que ça, c'était un peu propre à Marseille. Que personne ne soit allé à la fac. Et que ce n'était pas comme ça pour toutes les sous-cultures politiques du punk. Après tout, il fallait bien qu'il y ait des gens qui soient allés à la fac pour écrire toutes ces brochures qu'on lisait pas trop, mais qu'on distribuait sur les tables de presse. Et à Marseille, à ce moment-là, en tout cas, dans ces années 2000, c'était comme ça. On n'était pas trop intello, il y avait quand même pas mal de défense, pas mal de violence, et en même temps, ça tenait la route. C'était ce que Vivien Garcia appelle les savoirs pratiques. On inventait plein de choses, on expérimentait tout le temps, ça foirait pas mal, et des fois, c'était carrément brillant. Alors, je sais pas si on peut écrire l'histoire de tout ça à froid, s'il y a du savoir à tirer sans la violence qui va avec. Aujourd'hui, je trouve que l'université, c'est un endroit mortifère. Ça n'a pas toujours été le cas, mais aujourd'hui, ça me file carrément la morgue. Et je me rends compte qu'au final, peut-être que cette communication n'a servi que de miroir à l'université. Et c'est pour ça que finalement, peut-être, je ne m'adresse pas tellement aux punks. Se demander comment des punks peuvent voir l'université. Pourquoi mettre les punks à l'université ou au musée ? Le fait que pour les punks anarchistes marseillais des années 2000, je sois la seule à parler nous en dit déjà assez, déjà trop, sur cette étanchéité. Et en même temps, le désir de savoir, l'envie d'archiver, le désir de parler. Tout à l'heure, quelqu'un a dit, moi j'archive tout. Hein, plusieurs personnes ont dit ça. Le désir de parler avant que les mémoires flanchent et que davantage ne meurent. Garder un peu la trace de cette joyeuse rage de vivre, et même si on ne sait pas trop comment ni à qui le dire. Je m'arrête là.
Merci beaucoup Julie pour cette communication qui, comme tu l'as dit, a plusieurs objets. Donc c'est à la fois le punk, la bibliothèque et le miroir. Enfin, tu tends un miroir à l'université. Et je pense que ce type de communication à étage est extrêmement importante. Pour garder les acquis, voilà, de certaines réflexions méthodologiques qui viennent d'autres espaces. Parce que ce que tu fais finalement, c'est une proposition qui décentre les outils du punk. Parce que quand on travaille sur le punk, souvent ça vient des cultural studies, ça vient de l'anthropologie. Ce que propose Julie, c'est de réfléchir à la méthode du féminisme pour écrire ou pour faire l'expérience d'un mouvement qui est largement masculin. Donc ce décentrement, moi, il me semble extrêmement important à méditer. Et puis je pense que la question de l'autocritique est importante dans chaque activité. Voilà, même un témoignage, le moindre témoignage doit garder peut-être à l'idée donc cette question-là. Alors je sais pas, tu nous as apporté plein de questions, c'est ça qui est formidable, peu de réponses mais plein de questions. Est-ce qu'il y a des questions ou des réponses, voilà, dans le public pour cette communication? On parle pas comme ça aux gens. Non, on parle pas comme ça aux gens. Bon, allez, c'est bon. Bon, allez, on passe dans cet état d'esprit pacifiste à une autre communication. La communication de Rémi Boivin, voilà, qui nous fait aussi donc le plaisir de contribuer à des questions méthodologiques qui sont importantes, qui ont toute leur place.
Non, mais ils sont chauds patates maintenant.
J'ai l'impression, merci, notre Rémi, bravo.
T'as que de la gueule de les enfermer. Est-ce que j'ai lu le titre de ta
thèse? Ouais, tu peux dire que je suis docteur associé, c'est la terre à Paris.
Allez, on n'entend rien.
Mais c'est sûr qu'il va m'en faire une aussi. Hein. Il va m'en faire une. Hein. Ça a l'air bien malin.
Tu m'égales, il t'encule.